Bonjour la France, bonjour à tous, ici Mehdi Amala, bienvenue sur Burnout, le podcast au success story coloré. Je rappelle que Burnout est enregistré à la maison Kiss Kiss, l'espace de Kiss Kiss Bank Bank, dont un des piliers est la lutte contre toute forme de discrimination. Comme d'habitude, on s'abonne à la page Burnout sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music. Laissez un petit commentaire, un petit pouce en l'air, un petit 5 étoiles. C'est important pour le référencement et pour donner de la visibilité à ce podcast que j'apprécie et pour lequel je mets beaucoup d'énergie. Alors pour ce nouvel épisode de Burnout, je reçois un invité que je devais recevoir en saison 1, mais ça ne s'est pas fait, je vais tout vous raconter. Il s'agit d'un artiste complet, auteur, compositeur, directeur artistique et surtout interprète, un vrai musicien comme on les aime. Il vient de sortir son tout premier album Cœur élégant et franchement ça vaut le détour. Il propose les meilleurs clips dignes des plus grands artistes du monde entier. Nabil Arlo. Salut.
Salut Mehdi, merci.
Merci à toi, comment ça va?
Ça va super.
Enfin on se voit.
Enfin on se voit.
Ouais. Et tu sais, à chaque fois, je te jure, j'ai une anecdote avec tous les invités sur les backstage des échanges de la rencontre. Et je vais tout leur dire, tu m'autorises?
Je t'autorise.
Super. Alors en fait, moi, Nabil, je l'avais contacté en saison 1 de Burnout. Et il m'a dit, écoute, je suis en train de travailler sur mon premier album, c'est mieux si on attend la sortie du premier album, comme ça au moins j'ai quelque chose à raconter, quoi. Je fais ok, pas de problème. Sauf qu'entre temps, Burnout a eu beaucoup de succès, je galère avec les invités. Et du coup, je fais putain, merde, il a sorti son truc. Et tu m'as recontacté dernièrement. Tu m'as dit non, mais c'est bon là, Mehdi, mon album est sorti. Tu reçois Luana Belmondo pour parler de lasagne et moi pour parler de musique. Ça m'a tué de rire.
J'espère qu'elle m'en tiendra pas rigueur.
Non, elle est cool. Tu sais que grâce à Luana Belmondo, j'ai été repris dans toute la presse People.
Ah, mais c'est génial.
Parce qu'elle a vanné, elle a parlé d'Amanda Lear pendant l'épisode, et ça a été repris par Voici Public, enfin pour une connerie, mais au moins grâce à elle j'ai l'assertif sur Insta.
Et t'as goûté ces lasagnes du coup?
Non, jamais. Jamais. J'espère qu'elle nous entendra. Elle a beaucoup d'humour.
Ça fait plaisir.
Comment tu vas?
Ça va super, et toi?
Ça va, écoute, ça va super bien. Alors tu sais, comme le veut la tradition sur Burnout, on aime évoquer l'enfance de nos invités. Avant de parler de l'enfance de nos invités, ouais, de mon invité, de toi Nabil, est-ce que tu peux me confirmer ou pas si Nabil Arlo, c'est ton vrai nom et prénom?
Non, c'est pas mon vrai nom, c'est mon vrai prénom, Nabil.
Ok.
Arlo, c'est un nom d'artiste que j'ai pris il y a déjà bien longtemps pour préserver mon nom de famille.
D'accord. Voilà. Ok, donc impossible de l'avoir.
Impossible, je sais pas, mais j'ai par respect pour ma famille et connaissant le projet que j'avais envie de faire dans le futur, je voulais avoir un autre nom.
Super. Voilà. Et pourquoi Arlo?
Arlo, parce que je trouve que ça sonne super bien, déjà, vraiment,
vrai.
Pour la première chose, mais aussi parce que j'adore tous les vieux films hollywoodiens années 30, années 40, et c'est le nom d'une actrice qui s'appelle Jean Arlo, un petit peu la pionnière dans la provocation à l'époque, et ça m'a beaucoup plu.
Super, bah écoute, c'est original et au moins on retient. Donc je reviens sur la tradition de Burnout. T'étais quel type d'enfant, Nabil? À quoi t'aspirais quand t'étais en primaire et collège?
J'étais assez introverti, j'étais très timide aussi, mais très créatif. J'étais un petit peu dans ma bulle, j'aimais bien faire tout plein de trucs à la maison, faire de la peinture, écrire des poèmes, faire des potions magiques avec un milliard de produits que je trouvais dans la salle de bain, dans la cuisine. Voilà, toujours de créer, de tenter des choses.
Ok, et est-ce que, tu sais, comme beaucoup, tu avais un peu ce rêve, enfin rêve entre guillemets, mais cette ambition d'être soit pompier, soit médecin, soit ingénieur, comme nos parents, ouais, un peu, tu vois, le schéma assez classique,
oui,
ou pas du tout?
Si, j'ai eu plein de métiers enfant. Alors j'ai voulu être vétérinaire.
D'accord.
Parce que j'adore les animaux et que voilà, j'ai fait un stage petit. J'ai vu l'opération d'un chat, je suis tombé dans les pommes.
Tu as changé d'avis direct?
J'ai changé d'avis. Après, j'ai voulu être archéologue.
Ok. Et
puis, très vite, j'ai eu envie de faire de la musique.
Et justement, comment tu découvres, toi, la musique?
Alors, avec un dessin animé qui s'appelle Fantasia de Disney.
J'aimais trop.
Ouais. Et là, je découvre vraiment la musique classique.
Ouais.
Et c'est comme ça que j'ai pris goût à la musique.
C'est marrant, tu vois, tu évoques la musique classique et je vais faire le parallèle avec un artiste que j'ai reçu il y a quelques semaines qui,
ouais,
s'appelle Daniil.
Ouais.
Il cartonne et exactement comme toi, c'est la musique classique qui lui a donné envie, pas que, mais qui lui a donné envie de faire de la musique, de se lancer dans la musique.
Ouais, c'est
dingue. Et dans nos milieux, dans nos cultures, on dans l'imaginaire, enfin c'est pas dans l'imaginaire, mais dans la perception, et je voulais avoir ton avis, Nabil, on pense que la musique classique, c'est réservé à une certaine bourgeoisie, que c'est élitiste, alors que, tu vois, pas du tout. Tu viens de me dire que t'as découvert la musique classique en étant petit, Daniel aussi. Est-ce que c'est un cliché de dire que la musique classique, c'est un truc de blanc, je caricature à peine, ou pas?
Oui, je pense que c'est un cliché. Moi, je connais des gens... comme nous, qui écoutent
comme
de la musique
arabe.
Classique. voilà, ouais. Oui, comme nous, arabes, qui écoutent de la musique classique. Moi, je l'ai découvert avec ma prof de piano quand j'étais enfant. Mais ma grand-mère écoute de la musique classique, par exemple.
Et est-ce que c'est un truc un peu, surtout, encore une fois, je reviens dans nos cultures, t'en parles beaucoup dans ta musique, mais contre la virilité. C'est-à-dire, quand on était petit, ouais, j'écoute de la musique classique ou j'aime bien la musique classique. C'était un peu pas tabou, mais tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je sais pas si c'est les Arabes. Après, quand tu reprends tous les classiques de la musique arabe, il y a beaucoup de musique qui rejoint la musique classique.
C'est
genre Mkhitlum, tous ces gens, Farid Al-Altrash, tous ces gens qui se sont toujours fait accompagner d'orchestres, de super musique comme ça. C'est peut-être plus un truc de banlieue, je crois.
D'accord.
Ouais.
Toi,
oui.
t'as grandi où?
J'ai grandi à Champigny-sur-Marne.
Ok.
Dans le 94.
Et t'es né à Paris?
Et je suis né à Paris, ouais.
D'accord.
Dans le 14e.
Donc tu découvres la musique grâce à Mickey Mouse.
C'est ça.
Et là, tu te dis, je veux en faire mon métier.
Non, je me dis pas, je veux en faire mon métier. Pas tout de suite, en tout cas. Mais je découvre, j'écoute énormément. Et je veux écouter que ça. Je suis assez obsessionnel quand j'aime quelque chose. Donc, sur l'instant, à ce moment-là, j'en écoute énormément. Et Tchaïkovski, Stravinsky, voilà, je veux écouter tout ça. J'emmène mon père à la FNAC.
D'accord.
Et on achète des CD. Et lui, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Tu veux écouter quoi? Mais non, mes parents, ils m'ont toujours laissé faire mes trucs. Ils ont jamais été, ils m'ont jamais empêché ou coincé.
D'accord, donc éducation assez ouverte à la maison.
Ouais.
D'accord. Et donc, t'accèdes au lycée, etc. Qu'est-ce que tu fais là? Tu penses à quoi avant d'aller aux États-Unis?
Bah, au collège, je commence à écrire des chansons. Je réécris les textes des musiques avant d'avoir la musique, moi, qui vient dans ma tête. Donc, de composer une musique, une top line, une chanson, quoi. Je réécris des textes comme ça. Et puis, je laisse vite ça d'un côté. Et puis, je me dis que... Enfin, en tout cas, on m'oriente au collège. Parce que moi, je fais rien à l'école.
Okay.
Je m'ennuie, rien ne va assez vite, ça m'intéresse pas ce qu'on me raconte. Je m'intéresse à certains cours. J'adore les cours de français, j'adore les cours d'histoire, j'aime bien la biologie, mais après, tous les maths, tous les trucs comme ça, je me dis, mais ça sert à rien ces trucs-là, c'est insupportable, j'ai pas envie. Et vu que mon parcours scolaire, il est pas brillant, j'ai aussi une époque à l'école où c'est très compliqué pour moi. Où j'ai beaucoup d'harcèlement scolaire, d'élèves, de camarades qui sont très durs avec moi. Donc, je me renferme dans ma bulle et du coup, je ne fous rien en cours. Et on m'oriente en fin de troisième. On me dit, ben voilà, en gros, c'est pas assez bien. Il faut que tu fasses une orientation. Et puis, on m'envoie dans un CFA. Et puis, on me dit, voilà, il y a une liste de métiers. Tu dois choisir un truc.
Très franco-français.
Voilà. Et du coup, j'ai choisi la coiffure parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de la sculpture, du créatif.
Manuel, ouais.
Voilà. Et j'ai commencé comme ça et j'y ai pris goût en revanche très vite et j'ai vraiment, vraiment adoré ça.
Ok, d'accord. Super. Et là, tu décides d'aller à New York aux États-Unis pour apprendre l'anglais.
C'est ça.
Que pour apprendre l'anglais parce qu'on peut apprendre l'anglais à Londres.
Oui, on peut apprendre l'anglais à Londres, mais j'avais ce truc avec les États-Unis parce que j'adore les vieux films en noir et blanc.
Okay,
et tout vient d'Hollywood. C'est vraiment les films américain, donc j'étais plus attiré par là-bas que par l'Angleterre. Et ouais, je voulais vite parler parce que je voulais travailler dans la mode et je savais que sans l'anglais, j'aurais pas pu.
Et 18-19 ans, là tes parents, on en a parlé, ils sont assez ouverts, etc. Aucune objection ou
Non, je leur dis pas. Je pars,
ouais,
soi-disant en vacances.
Ouais.
Donc j'ai 19 ans. Ma mère, elle tremble parce que 19 ans pour elle, c'est 7 ans et demi.
Ouais.
Je comprends. Je lui dis, mais je suis majeur, je fais ce que je veux. Donc je pars, je lui dis que je pars une dizaine de jours et finalement je l'appelle de New York et je lui dis, écoute maman, je vais pas rentrer, je vais chercher un travail. Elle me dit, mais quoi, tu vas pas faire ça? Mais comment ça? Mais t'as pas de papier? Machin.
Ouais.
Donc je trouve un job,
okay.
Je me fais faire mes papiers et je reste là-bas un peu plus de 15 ans.
Putain, c'est fou quoi. belle histoire. Juste, je veux revenir sur la partie harcèlement que tu as évoquée.
Ouais.
Si tu devais donner un conseil aux plus jeunes ou même au petit Nabil,
ouais,
à ce moment-là, qui se renfermait dans sa bulle et qui se faisait harceler,
ouais,
qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent.
Ben moi, je lui dirais de rester enfermé dans sa bulle, parce qu'il n'y a pas de problème d'être dans sa bulle. On a le droit d'être dans sa tête, on a le droit d'être sur un nuage, comme ils disent les professeurs. Tout le monde est différent. Et il ne faut pas changer ou essayer de s'adapter pour être comme les autres, pour être accepté par la société. Ça, on l'apprend plus tard avec la maturité. Mais oui, il n'y a pas de problème à être différent, mais peu importe la différence.
Bien dit en tout cas. Très bien dit. Alors, après plusieurs mois, tu décroches ton premier emploi comme assistant d'Orlando Pita. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Orlando Pita, c'est un des plus grands coiffeurs au monde qui a travaillé avec toutes les grandes maisons de luxe, surtout les grands défilés. Il a sa propre marque de soins aussi, ouais, capillaire. Mmh. Enfin bref, il a construit tout un empire. Comment se passe la rencontre avec Orlando Pita et comment il te propose un job?
Alors Orlando, je le rencontre via son frère qui s'appelle Raphaël Pita, qui est maquilleur, que je connais de Paris à okay. l'époque parce que j'étais déjà assistant sur des cabines de mode en coiffure. Et Raphaël me dit « mais il faut que tu travailles avec Orlando etc. etc. » Et puis il me le présente et je commence à travailler avec lui. Ça s'est fait comme ça.
Ok. Il en dit pas plus, mais pour les auditeurs, il a le regard qui brille. Bref, je vais pas.
Bah, j'y croyais pas. Si tu veux, je sais très bien que de travailler avec Orlando, c'est très compliqué. Déjà, il faut qu'il te prenne dans sa cabine. Il est sur les plus gros défilés du monde et tu peux pas rentrer comme ça. Il faut vraiment assurer derrière. C'est énormément de travail.
Et ce monde un peu strass et paillettes, etc. Quand tu arrives sur les défilés ou à travailler avec Orlando Pita ou même peut-être un peu avant, est-ce que tu avais, toi, ces codes du luxe?
Non.
Non.
Tu les apprends, les codes du luxe, tu les as, oui, parce que tu vois des choses, tu vois des films, tu vois ce qu'on te montre dans une télévision. Donc, c'est des choses qu'on a vues, mais ce n'est pas des choses qu'on a vraiment vécues. En tout cas, pas ce luxe-là, les maisons de couture. Quand tu parles du luxe, tu parles des maisons de couture, on est
par
d'accord
exemple, ouais.
Ok. Donc non, je le découvre, j'apprends aussi. C'est plein de choses. Ce n'est pas que le travail, il y a aussi le comportement, tous les codes qu'il y a, comment il faut faire. C'est 50% du job.
Ce qu'il y a dans Le Diable s'habille en Prada, c'est vrai ou pas? C'est comme ça se passe à New York en plus.
Le Diable s'habille en Prada, pour moi, c'est une comédie. C'est tellement mignon et gentil que c'est vraiment 20% du Devil Wears Prada, comme ils disent. C'est 20% du Diable, Le Diable s'habille en Prada.
Mon Dieu. Tu deviens ensuite directeur artistique de la gamme cheveux pour la maison Balmain.
Oui.
Enfin, déjà, bravo.
Merci.
C'est fou. Enfin, moi, en préparant cette interview, je me suis dit, putain, il correspond vraiment à l'ADN de ce podcast, la success story. Donc, comment toi, t'intègres ce service, ce département chez Balmain? C'est toujours à New York. Hein. Là, on est...
J'étais, moi, à New York, en tout cas. Ouais. Non, c'était ici à Paris, mais c'est moi, j'habite okay. à New York. Je l'ai fait de New York en venant beaucoup à Paris. Je venais quoi 2-3 fois par mois pendant les 5 dernières années où j'habitais là-bas. J'étais 2-3 fois par mois à Paris.
Okay.
Ils viennent me chercher. Ils cherchent quelqu'un pour relancer la gamme cheveux. Le prêt-à-porter cartonnait. Ils avaient pris Olivier Roustin, la direction artistique du prêt-à-porter, quelques années avant. Et je pense que ça a donné l'idée de trouver quelqu'un de jeune. Qui n'avait pas forcément de CV ou de bagages, en tout cas qui n'était pas une star dans son domaine. Et ils m'ont laissé cette chance, ça a été une super expérience et je les en remercie d'ailleurs.
Et si aujourd'hui Olivier Roustin te proposait un job chez Balmain, t'accepterais?
Alors moi, ce n'est pas Olivier Roustin qui m'a proposé un job chez Balmain, on avait tous les deux un CEO, lui était au prêt-à-porter, okay. Moi je m'occupais de Balmain Air. Mais non, j'accepterai pas parce que j'ai déjà passé cette étape-là et que voilà.
Je vais encore faire, j'aime trop faire le parallèle avec les invités que j'ai reçus sur Burnout. Et là, c'est avec Farida Khelfa.
Oui.
Je lui ai posé une question sur la diversité dans le milieu de la mode.
Oui.
Elle m'a dit non, il y a des Arabes. Moi, j'étais assez surpris et tant mieux. C'est son prisme et puis il faut respecter ça.
Mm-hmm.
Toi qui as travaillé dans ce milieu-là, est-ce que tu confirmes ou pas?
Alors moi, je n'ai pas la même expérience que Farida, que j'embrasse, que je connais, qui est une femme très gentille. On n'a pas la même expérience. Je, dans mon sens, ne trouve pas qu'il y a assez d'Arabes dans la mode. Alors, il y en a quelques-uns, mais ils se comptent sur les doigts d'une main. Et je pense qu'il y a un vrai problème de diversité à ce niveau-là. C'est même une catastrophe.
Ok, bon. Tu vois, Farid, t'arrêtes de dire n'importe quoi.
Non, j'espère qu'elle me pardonnera aussi.
Non, mais après, on a droit d'avoir notre avis. Est-ce que c'est plus dur d'être arabe et musulman à New York, aux États-Unis ou en France
Ah non, c'est plus dur en France. En tout cas, à New York. Après, je ne te dis pas que dans l'Arkansas, c'est facile, j'en sais rien.
Ouais.
New York, c'est un melting pot, il y a des gens de partout. Et surtout, ce qui se passe à New York, quand vous parlez anglais, c'est que vous êtes immédiatement français. Vous avez un accent français, vous êtes français, et vos origines s'annulent. Il n'y a pas ce truc comme en France de « mais toi, tu viens d'où ? Ouais. Toi, t'es quoi ?» Tu vois, même si t'es français.
Ça, c'est dur parfois.
Voilà. C'est dur tout le temps.
Oui, c'est vrai, on s'habitue, malheureusement, mais il ne faut pas. Alors, tu reviens après 15 ans à New York, en France, ouais. Tu es dans quel mindset là ? Est-ce que tu te dis, il faut que j'avance, j'accélère mon rêve dans la musique, ou est-ce que tu dois juste payer les factures et vivre ? T'es comment ?
Non, la musique, je vais pas te mentir, j'y pense plus trop, j'en fais à côté, j'ai complètement annulé le fantasme d'avoir une carrière musicale, parce que ma carrière, elle se passe super bien dans la mode, puis le confinement arrive. Et c'est pendant le confinement que je me dis, qu'est-ce que je vais faire après, c'est quoi la suite ? Et là, je me rends compte que je suis tellement seul que je replonge dans les démos, dans la musique, dans l'écriture. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, l'obsession revient et je ne peux plus l'annuler. Il faut que j'aille au bout de l'obsession qui a démarré, et qui a redémarré.
Tu sors ton premier titre, Hôtel Paris, et ensuite ton premier EP qui s'intitule L'Hérétique. Nabila, je suis désolé, je vais poser une question de teubé, mais moi, je suis perdu entre le champ lexical de la musique, EP versus album.
Alors, c'est quoi la différence ? Un EP, si tu veux, c'est un mini-album.
D'accord.
Voilà, c'est entre, si je ne me trompe pas, 4 et 6 chansons.
Ok.
Puis un album, c'est une version plus longue. Enfin, c'est un album, quoi.
Bah, c'est simple.
Voilà, c'est un mini-album. Voilà.
Super
c'est
clair.
C'est un petit bébé.
Dans cette EP, il y a le titre qui t'a fait révéler au grand public, Les Garçons du Quartier, avec un clip super bien tourné, bien filmé. T'es aussi bon comédien, j'ai l'impression. Ça te plaît de jouer avec ton image et avec la caméra ?
Moi, j'aime bien me transformer, surtout. Ce qui m'amuse, c'est de jouer des personnages. Donc oui, puis j'avais envie de réaliser mes clips aussi. J'avais envie de raconter ce qui se passe dans ma tête. Et puis, qui de mieux que soi-même pour le faire ?
Et qui a écrit ? J'ai besoin de comprendre le cheminement du processus de cette œuvre, de ces titres. Qui a écrit Les Garçons du Quartier ? Qui l'a produit ?
Dans quel sens tu veux dire la produit la
qui l'a composé pardon
a composé ouais. Ben, j'ai composé la chanson, j'ai d'accord. Fait la top line, donc tout ce que t'entends chanter, le garçon du quartier nanana, ça s'appelle une top line, donc okay. Vraiment la mélodie chantée, et j'ai écrit le texte, donc les paroles, et ensuite Léa Castel a fait un piano dessus et Jérémy Châtelain a fait une prod sur la musique.
Putain, du lourd quand même.
Travaillant ensemble. Ouais, ben, Léa c'est une super pianiste, je l'adore.
Ah, bravo. Mais comment t'arrives à passer d'une idée à être en studio et puis
Alors ça, honnêtement, c'est un mystère, j'en sais rien. Je crois que c'est le pouvoir de la projection, d'imaginer quelque chose, et puis ça se crée comme ça. Je n'ai pas vraiment l'explication. Alors, je me donne les moyens, hein, attention. Hein, j'ai quand même à passer un coup de fil pour dire « Bonjour, puis-je venir enregistrer le 27 mai ?» Voilà, donc ça oui, mais non. Je pense que quand je suis sûr que c'est bon, quand j'y crois moi-même, je me lance et je fais le truc. Mais j'ai besoin d'en être certain, sinon je ne le fais pas.
Est-ce que tu peux aussi m'expliquer comment, enfin pourquoi plutôt, tu sexualises autant tes clips, enfin, c'est un peu, est-ce que c'est, tu cherches à provoquer un peu comme Madonna à l'ancienne,
ouais.
Ou tu n'intellectualises pas?
Alors mes clips, je suis pas d'accord avec toi, ou en tout cas un clip, Le Garçon du Quartier, qui ouais. A un côté sexuel, les autres c'est plutôt des images oniriques, je ne crois pas qu'il y ait des choses sexuelles.
Ouais, j'avoue, j'abuse.
Si, il y a un petit bisou avec Noémie Lenoir dans J'aurais aimé, mais qui est un joli baiser de cinéma. Pour Le Garçon du Quartier, c'est très intéressant ta question justement. C'est sexualisé, oui et non. Alors oui, parce que il y a des rapports avec des gens et c'est sexuel, mais il y a aussi tout le côté de ce qu'on fait de l'homme arabe, où on le sexualise immédiatement au moindre acte. Ouais. Donc, si j'étais pas arabe, si par exemple Gisèle Palmer, qui joue dans mon clip, qui est une femme trans noire sublime, n'est pas avec moi, on est moins choqué. J'ai fait deux versions du clip. J'ai d'abord travaillé une version, c'est une chanson qui devait sortir bien avant, qui est finalement sortie après. Et vu que le temps est passé, j'ai voulu refilmer des images supplémentaires. Je sais pas, il me manquait un truc. Donc au début, il y a eu un premier montage où il y avait que Béatrice, donc qui est la jeune femme blonde, qui est super d'ailleurs, qui est dans le clip. Alors tout le monde me dit oui, mais c'est un peu chaud, machin et tout ça. Je dis bon, bah non, ça raconte quelque chose. C'est aussi un peu les choses qui se passent dans les quartiers quand les garçons assument pas forcément. Donc bon, ça fait des plans à trois. Il y a un copain qui est là, mais ça se touche un peu en même temps. Ils savent pas trop ce qui se passe. On fait semblant de pas comprendre, etc. Et quand j'ai ajouté les images avec Gisèle, pour beaucoup de gens, en tout cas. À qui j'ai montré les images, on m'a dit « Waouh, mais là, c'est hyper intense, ça devient porno. » Alors, qu'est-ce qui devient porno ? C'est que Gisèle est noire et que c'est un homme arabe qui l'embrasse. Est-ce que c'est ça qui devient tout à fait hyper sexualisé ?
Porno, c'est un peu fort, je trouve.
Voilà. Mais c'est des retours que j'ai eus. Hein.
J'imagine, ouais,
c'est des retours que j'ai eus parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir ce genre d'image ou d'un garçon arabe qui embrasse à pleine bouche une femme noire, par exemple. Donc tout ça, c'est d'autres débats, mais qui sont hyper compliqués, où on over-sexualise la femme noire, l'homme arabe, et ça passe toujours plus crème quand c'est des blancs qui s'embrassent ou qui ont des rapports. C'est moins sexualisé pour les gens.
Ouais, bon, c'est des restes du colonialisme.
Et oui, puis, oui, bien sûr.
On a sexualisé beaucoup l'homme et la femme arabe.
Aussi. Exactement.
Nesrine Slaoui, elle en parle très bien. Je ne sais plus si c'est dans son bouquin ou si elle avait fait un reportage là-dessus. Bref, ça me reviendra. Et tu viens de sortir ton premier album, Cœur élégant, disponible sur toutes les plateformes d'écoute avec un premier single en duo avec la merveilleuse Noémie Lenoir. Rien que ça. Est-ce que, là, à nouveau, tu peux nous parler du processus d'écriture et de composition ?
Bah écoute, j'ai énormément d'amour pour Noémie et cette chanson, je l'ai écrite en pensant à elle. J'avais besoin qu'elle soit avec moi sur le titre. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Écoute, j'ai écrit une chanson, j'aimerais bien que tu la chantes avec moi. » Alors elle était morte de rire, elle évidemment, elle me dit « Mais moi, je suis pas chanteuse, ça va pas et tout. » Je lui ai dit « Mais si, viens en studio, on essaye. » Et puis on a fait une après-midi en studio et finalement, on l'a gardée, on l'a faite ensemble.
Elle y a pris goût, j'imagine.
Ouais, elle a adoré ça, mais tu sais, Noémie, elle est très libre, elle aime bien faire des choses, tenter des choses, c'est quelqu'un de très créatif aussi, quelqu'un qui est beaucoup dans l'écoute, avec beaucoup, beaucoup de cœur, et c'est pas quelqu'un qui va s'empêcher de faire des trucs, elle s'en fout de ce que les gens vont dire, ouais, elle fait les choses pour elle.
Pourquoi ce titre, cœur élégant ? Est-ce qu'il y a des cœurs qui ne sont pas élégants, Nabil ?
Il n'y a que des cœurs qui ne sont pas élégants.
Aïe, aïe, aïe.
Cœur élégant, ça rassemblait plein de choses sur le disque. Puis, je l'ai souvent dit, je trouve qu'on est dans une époque où les gens manquent beaucoup d'élégance, d'éducation. Et ça change la face du monde. C'est des choses très simples. Hein, mais bonjour, au revoir, merci, être agréable, sourire. Et ne pas prendre le sourire ou l'élégance d'un tout à chacun pour une forme de faiblesse, par exemple.
Ça s'apprend l'élégance ou c'est inné comme la classe ?
J'en ai aucune idée. Je pense que tu peux apprendre à être élégant. Après, il y a plein de définitions de l'élégance, tu vois. Tu peux apprendre à être élégant avec une jolie chemise et un pantalon bien coupé.
Sacré Nabil. Alors, je voulais te poser une question par rapport à l'argent.
Ouais.
Ou le budget d'un projet comme Cœur élégant.
Ouais. Parce
que moi, je suis assez surpris du niveau de professionnalisme de ton bébé, de ton album.
Ah, merci.
Entre la composition, la direction artistique autour, les clips, je le disais en introduction, et j'exagère pas du tout, c'est digne des plus grands artistes au monde.
Merci, merci.
Comment t'arrives, toi, à financer ? Est-ce que c'est tes économies ? Est-ce que t'as des producteurs derrière ? C'est des maisons de disques ?
Alors, j'ai des producteurs, oui, mais surtout, moi, il faut pas oublier que la direction artistique, c'est mon métier à la base.
Ouais.
Donc de travailler l'image, de savoir faire toutes ces choses-là, c'est aussi ce qui coûte beaucoup d'argent aux maisons de disques, de trouver les bons directeurs artistiques, les bonnes équipes, les bons réalisateurs. La plupart du budget, elle part là. Moi, c'est un peu plus facile.
Donc il y a des économies grâce à ton expertise.
Probablement.
Est-ce que je peux te dire, te partager mon titre préféré?
Ouais.
C'est Claudine. Du début à la fin, j'ai kiffé comment tu poses ta voix, la rythmique, l'intro un peu à la Stranger Things. Tu sais,
ouais,
ça m'a fait rappeler un peu les années 80.
Le synthé 80.
Ah, j'ai trop kiffé. Franchement,
bravo.
Non, mais je vous invite vraiment à écouter son album partout. Enfin, il est disponible partout, Spotify, Apple Music, et à regarder les clips parce que c'est une vraie œuvre d'art. Et j'ai envie de parler d'un autre clip. C'est DZ Up.
Ouais.
Et faire le lien avec le Tarbouche, puisque le Tarbouche, tout le monde le sait, c'est le lien de mon podcast, le lien du podcast, enfin le symbole du podcast Burnout. T'as tourné ce clip à Alger. Pourquoi ?
Parce que l'Algérie, c'est mes racines, c'est le pays de mon père. J'avais envie de la faire là-bas. Puis c'est une chanson qui parle de la France et de l'Algérie aussi.
Ouais.
Donc c'était important pour moi de filmer ces images là-bas, de montrer la bonne humeur, de montrer aussi notre facette du pays où on n'est pas que sur des motos à faire la roue et
à boire du Selecto.
Ouais.
Tu vois, j'avais reçu Malha Bedia qui avait dit au micro de Burnout que tout le monde lui avait dit dans le milieu, surtout pour ta série Miskina la pauvre là sur Amazon, sa série pardon, ne pas tourner en Algérie.
Ouais.
Elle a écouté personne et c'est ce qu'elle me disait, qu'elle regrette pas du tout, que les gens étaient super cool, super pro. Tu partages le même sentiment, tu regrettes pas d'avoir tourné là-bas, pas du tout.
Je regrette pas.
C'était simple.
Ah, complètement. C'était hyper simple, c'était super. J'ai passé un moment incroyable. Et surtout, oui, on m'avait dit aussi des choses similaires, mais j'avais aucun a priori. Et, de toute façon, je fais toujours comme j'ai envie et je me fais mon propre avis.
Ouais. Sans blague. Les premiers retours que tu as eus de ton premier album, Cœur élégant, est-ce que tu peux nous les partager? T'étais plutôt satisfait?
La vie des professionnels, tu veux dire,
ou des professionnels des gens, et des gens qui écoutent ou qui t'ont découvert ou qui te connaissaient déjà?
Ouais, bah écoute, je reçois beaucoup de messages adorables de gens qui aiment beaucoup le projet. Chez les professionnels, j'ai aussi beaucoup de compliments. Ça me fait très plaisir. Mais après, il y a aussi beaucoup de gens qui aiment pas forcément. Mais tu sais, la musique, c'est tellement particulier, ça te prend ou ça te prend pas. Moi, j'ai plein d'artistes qui ont un succès phénoménal dont je n'aime pas la musique. C'est tellement personnel d'aimer la musique que... Voilà, c'est subjectif. On aime ou on n'aime pas, mais dans le côté pro, j'ai eu de très bons retours et ça m'a aussi conforté dans le choix de continuer, en tout cas avant de sortir le disque et avant de faire le projet.
Et c'est quoi ton titre chouchou à part le duo avec Noémie Lenoir dans ton album Cœur élégant?
Ah ouais, c'est dur, c'est un peu comme ses enfants, il faut que tu me demandes de choisir qui je préfère. J'aime beaucoup la chanson C'est pas vrai.
Ouais.
Voilà.
Et est-ce qu'on t'a déjà comparé à Julien Doré dans le style?
Ah non, c'est la première fois.
Ah mais tu vois, moi je l'ai, en préparant l'interview, je me suis mangé du Nabil Arlo là depuis une semaine, matin, midi et soir. Et à un moment, je me dis, ah, ça me sans vouloir comparer, tu vois, mais il y a truc de Julien Doré.
Ok.
Et tant mieux, parce que c'est après, je sais pas si t'aimes bien ou pas, mais moi j'aime beaucoup Julien Doré et ça m'a fait rappeler un peu.
Non, c'est super, c'est super ce qu'il fait Julien Doré. Je connais pas tout, mais j'ai entendu tout ce qui est un petit peu passé à la radio ou à la télé. Et je trouve qu'il a un super univers, ce garçon.
Et toi, tes sources d'inspiration, justement, dans l'univers musical, c'est qui?
Écoute, moi, c'est les artistes que j'ai écoutés plus jeunes, toute la musique française.
Ne dis pas Fantasia.
Non, t'imagines. Mais si, enfin, pas Fantasia, mais il y a probablement un truc avec Disney où moi, j'adore les mélodies, tu vois, j'aime les chansons chantées, j'aime bien les trucs comme ça, mais non, je l'ai dit plusieurs fois en interview, Paul Naref, Étienne Dao, Mylène Farmer, tu vois, les auteurs, les gens qui écrivent vraiment leurs chansons, qui viennent des tripes, quoi. J'aime bien les auteurs, moi.
Et avec qui t'aimerais faire un duo, si t'avais l'occasion?
Oh, ça, je dirais pas, ça porte la poisse.
Sérieux? Non. Ça, c'est l'Algérien qui parle. Ils ont toujours peur de l'image.
Mais pas grand monde, en tout cas.
Et alors, j'avais une question, mais je l'ai oubliée. Ah, je suis dégoûté.
Mais tu l'as pas noté, ta question ?
Non, mais en fait, moi, je pose quelques questions. Après, moi, j'improvise.
Hein. Ah, okay.
Non,
j'arrive.
Si, je voulais qu'on parle de Slimane deux secondes. Parce
D'accord.
que je suis passé devant un point relais il n'y a pas longtemps. Et je suis tombé, il y avait un magazine, une couverture de magazine. De loin, je pensais que c'était toi.
Ah oui ?
Et pas du tout. En fait, je m'approche et c'est Slimane.
C'est très raciste, ça.
Mais non. Au niveau de la DA. Pas au niveau du visage, vraiment.
D'accord.
Au niveau de la DA, du style vestimentaire, des couleurs aussi. Est-ce que toi, c'est quelqu'un que tu connais ?
Oui.
Ok.
Ouais.
Et tu sais pourquoi je te pose la question ? Parce que, en France, j'ai le sentiment que dans le milieu, dans l'industrie musicale, comme dans l'industrie cinéma audiovisuelle, on peut avoir seulement un ou une Renoir, Aya Nakamura, un Rebeu, Slimane. Tu vois, et au cinéma, c'est pareil. Celui qui réussit, c'est
Taraï. C'est très, très vrai, ça. C'est très vrai.
Pourquoi, depuis qu'on est tout petit, Nabil, on nous met ça dans la tête ? C'est pas qu'on nous met en compétition, c'est qu'on nous fait sentir...
Si, on nous met en compétition.
Ouais, tu vois.
Parce que c'est comme ça. Je pense que c'est aussi le colonialisme qui a fait ça. Je pense qu'il faut qu'il y en ait qu'un. Tu le vois beaucoup moins aujourd'hui au cinéma dans les films américains où, par exemple, tu voyais, souviens-toi l'été dernier, deux avec Brandy, et tout à coup, Brandy, elle meurt la première parce qu'elle est noire. Enfin, tu vois,
c'est vrai.
On l'a mise dans le film parce qu'il faut mettre une noire, ou tu sors une série, tu as un noir, une latino, voilà, parce que c'est...
Le quota.
Voilà, de là-bas. Et en France, je crois que c'est pareil. Et puis, ça fait peur aux artistes aussi. Mais c'est comme être LGBT, où il faut qu'il n'y en ait qu'un. C'est tout ce qui est différent pour l'homme blanc, en tout cas, en France. Je pense que c'est ça. Mais il ne faut pas qu'ils aient peur, les gens. Il faut se dire que ça finira par s'annuler. J'espère. Mais ouais, c'est comme ça, hélas.
Nabil, t'as le talent, tu charbonnes comme un malade.
Ah, t'es gentil.
On le voit sur tes projets, dans tes clips, j'en parlais tout à l'heure, dans ton premier album. Comment t'expliques aujourd'hui, Nabil, qu'on ne t'entend pas sur Énergie, Voltage en radio et qu'on ne te voit pas dans les médias mainstream, je sais pas, je pense à Quotidien Yann Barthès, par exemple. Pourquoi t'as pas interprété ton titre Les Garçons du Quartier ou C'est J'aurais aimé avec Noémie Lenoir ?
Ouais.
Pourquoi ?
Bah, je ne sais pas, il faut leur demander à eux. Je pense qu'en France, on aime bien la représentation exagérée ou exacerbée. Ça veut dire que si on est un artiste LGBT, il faut qu'on soit excentrique. Ou il faut qu'on soit... je ne sais pas, c'est très compliqué comme sujet, mais je ne crois pas qu'on ait envie d'inviter à la télévision en France des gens sur qui on ne pourrait pas, je ne sais pas, taper sur les doigts et dire « Regarde, je ne sais pas, celui-là, il ne sait pas parler, ou celui-là, il est comme ci, ou celui-là, il est comme ça.
Ouais. »
Ils aiment bien la représentation comme ça, tu vois.
Bon, bah, Yann Barthès, si tu nous écoutes, franchement, invite Nabil. Ou même une interview chez... Clique, Mouloud Achour, tout simplement.
Ouais, bon, tu
bon,
sais,
bref.
Voilà, mon album est sur les plateformes et c'est très bien aussi.
On est là pour en parler. Et un télécrochet type The Voice, tu as déjà pensé ?
Non, parce que moi, je fais de la musique pour mes musiques. Nabil Karaoké, je sais pas. Je m'imagine pas chanter des chansons. J'aime bien chanter les chansons de quelqu'un aussi. Une chanson que j'aime bien, je pourrais la chantonner. Mais j'ai pas ce truc d'avoir envie de chanter. Je suis pas, tu vois, j'ai pas le truc du chanteur à voix ou faire une performance vocale. Ça m'intéresse pas du tout.
Et donc, pour te découvrir, c'est sur les plateformes d'écoute. Mais si on a envie de te voir sur scène, est-ce que tu fais de temps en temps des petites scènes parisiennes ou ailleurs en province ?
Pas encore. On travaille dessus. J'espère bientôt. Mais ça fait partie du développement aussi. Donc, c'est des choses qui prennent du temps. Et surtout, j'ai envie de le faire bien. Je n'ai pas envie de faire une scène comme ça, juste comme ça. J'ai envie, comme pour les clips, de faire des choses un petit peu plus...
T'as un côté perfectionniste, en fait.
Ah, mais moi, je suis complètement taré. Hein. C'est-à-dire que je suis tellement perfectionniste que je ne dors pas la nuit. C'est un cauchemar.
Ouais. T'es un surdoué.
Non, je ne sais pas si je suis un surdoué. Ça, c'est, je ne peux pas dire que moi, je suis un surdoué. Mais en tout cas, j'ai besoin d'aller au bout du truc que j'imagine. Et ça me coûte très cher parfois.
Ouais, en fait, t'as dit le bon mot. Le bout du truc. En fait, ton projet, il a abouti.
C'est gentil.
C'est ça. Et en fait, ça me surprend. Hein. Je reviens dessus parce qu'il est tellement abouti que je comprends pas que tu vendes pas des que tu sois pas disque d'or ou mais ça viendra.
Mais parce que la représentation, tu sais, c'est très dur de faire de la presse, c'est très dur d'intéresser les journalistes aujourd'hui. Il faut faire pleurer les chaumières, il faut dire il m'est arrivé ça.
Ouais, un peu du drama, quoi.
Voilà, il faut du drama partout. J'en ai du drama, il faut qu'il m'appelle.
Et justement, t'as déjà proposé un projet chelou, genre télé-réalité ou pire?
Honnêtement, on m'a proposé une tonne de trucs à l'époque. On m'a proposé beaucoup de choses. On m'a proposé des émissions de relooking sur M6. On m'a proposé de présenter des émissions comme ça. On m'a proposé de faire, je sais plus, on m'a proposé The Voice à l'époque, on m'a proposé des émissions de télé-réalité.
J'ai reçu plein de trucs.
Ah ouais, non, mais j'ai toujours refusé.
C'est
The Voice, c'est quand même une super émission, attention. Hein, quand je dis j'ai refusé, parce que moi, je me vois pas chanter du Mariah Carey. Enfin, tu vois.
Ouais. C'est pas ton style. Ouais.
Non, c'est pas du tout mon truc. Mais non, j'ai jamais eu envie. Je pense que tu as besoin de fantasmer la célébrité pour faire des émissions de télé-réalité. Tu as besoin d'avoir envie d'être connu. Mais connu pourquoi, c'est notre question. Tu vois, enfin, ouais. Voilà.
Toi, tu cherches pas la célébrité, coûte que coûte. C'est pas ton truc.
Pas du tout.
Juste vivre de ta passion.
Ouais, c'est ça.
On l'a dit tout à l'heure, tu écris tous tes textes. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un projet de bouquin, de livre?
Ça aussi, je peux pas le dire.
Ah là là, maison d'édition.
Je sais pas, j'ai écrit pas mal de choses déjà, mais parce que, comme je t'ai dit, j'adore l'écriture et j'ai écrit plein de trucs, j'écris tout le temps. Mais oui, peut-être.
Mystérieux jusqu'au bout. Et tes projets futurs, hormis ce projet d'écriture, même si c'est pas confirmé, mais est-ce que tu as d'autres projets?
Ouais, j'ai envie de monter une association pour qu'on puisse rendre les vraies couleurs de la Tour Eiffel qui était rouge avant. Et non, je rigole. Alors, elle était rouge pour de vrai. Je pense qu'elle était beaucoup plus belle parce qu'à la base, elle était rouge, la Tour Eiffel, mais non, c'est pas vrai. C'est pour te faire une blague.
Moi, je crois tout. Je suis super.
J'ai vu, t'es parti tellement vite que j'ai dit, attends, j'arrête tout de suite parce que comment je vais ressortir du truc. Oui, j'ai plein de projets, mais pour mon album, pour la suite, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le disque.
Non, mais lâche des infos, Nabil.
Bah, il y a des clips qui arrivent.
Un deuxième single de...
Ah oui, il y a un... Oui, y a, bah, c'est sûrement Claudine, le
prochain. Ah bah,
single.
Tu vois, mon préféré.
Voilà, c'est ton préféré.
Avec un clip ou pas?
Avec un clip, ouais.
Putain, ah bah, ça, j'ai hâte de voir. Un deuxième album, tu vas en studio, pas en studio?
Je vais encore en studio, ouais. Ouais, ouais.
Ok, bon bah, tu reviendras. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Nabil?
Du stream,
okay.
Des playlists, voilà. On peut me souhaiter d'avoir la force de continuer, d'avoir envie, de garder la passion et d'être heureux, parce qu'avant tout, il faut être heureux, je crois.
Et qu'est-ce qui te rend heureux, toi? C'est quoi ton aspiration au bonheur?
Bah écoute, moi, les choses qui me rendent heureux déjà, c'est les gens que j'aime, c'est ma famille, c'est de voir ma famille en bonne santé, de relativiser, de me dire qu'on a quand même beaucoup de chance, qu'on est bien, quoi. Voilà, c'est simple d'être heureux.
Avec le climat actuel où ils stigmatisent toutes les minorités, mm-hmm. Toi, c'est quelque chose, tu le vis bien, parce qu'on en parlait tout à l'heure avant de commencer le tournage, tu voyages pas mal. Est-ce que c'est pour fuir le climat de merde actuel ou pas du tout?
Non, mais tu sais, je pense que le climat, il est anxiogène partout. Hein. Il n'y a pas qu'en France que c'est anxiogène. Si j'ai un reproche à faire à la France, c'est que c'est vrai que les gens font quand même beaucoup la gueule. C'est dommage. Enfin, il faudrait qu'on sourie un peu plus et qu'on soit un peu plus cool.
Ah, surtout à Paris, ça.
Mais oui, mais c'est un truc un peu pète sec, ouais. Mais qui va être le Parisien, ça va aussi fantasmer les étrangers, donc ça va avec.
Nabil, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions.
Non, merci à toi de m'avoir invité.
Il y a une dernière rubrique, c'est la question sous le tarbouche. Je t'explique le concept.
Okay.
C'est soit un ami, soit un membre de ta famille, soit un follower, un auditeur qui m'a envoyé une question lorsqu'il a appris que je te recevais.
Okay.
Tu as le choix entre lever le tarbouche et lire la question, mais là, tu es obligé d'y répondre.
Okay.
Ou alors, tu refuses et puis... Tu ne sauras jamais quelle est la question.
Ah non, si, je vais quand même... allez,
yes.
Je soulève le bleu.
La question sous le tarbouche. J'ai pas de jingle.
Ah, là, c'est insupportable la question. Je dois la lire.
Oui, y répondre.
Ah ouais, je dois vraiment y répondre.
Ah bah trop tard. Hein.
Quelle célébrité t'as déjà dragouillé en DM sur Instagram?
Il regrette de l'avoir. Alors, tu sais, t'es pas obligé de donner le nom de la célébrité parce okay. qu'on reste bienveillant sur Burnout, mais au moins donner son secteur d'activité. Professionnel.
Acteur américain.
Acteur américain, ouais. Très connu.
Ouais.
Oh là là. Bon, je vais deviner après. Merci beaucoup à nouveau, Nabil.
Merci à toi.
Ravi de t'avoir reçu au micro de Burnout.
Merci beaucoup.
Je vous invite tous à aller sur les plateformes d'écoute pour écouter Cœur élégant, donc le premier album de Nabil Harlow, H-A-R-L-O-W. Mais je pense que les gens te connaissent vu le nombre de messages que j'ai reçus quand j'ai annoncé que j'allais te recevoir. Donc ça fait plaisir. Et mon titre préféré, moi, c'est Claudine. Donc je suis content parce que normalement, c'est le deuxième single de Nabil. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur la section questions-réponses, sur la page Burnout sur Spotify ou directement sur Instagram. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de Burnout. Merci pour vos écoutes, vos messages. Nabil, merci. Tu reviens quand tu veux.
Merci Mehdi et bravo pour ton émission parce que c'est une émission qui est vraiment nécessaire et voilà, je voulais te dire bravo.
Un honneur de t'avoir reçu.
Merci.
Allez, ciao.
Merci.